Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC. On est vendredi, mais on est ensemble et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La colère des agriculteurs qui prend de l'ampleur ce matin. Action en cours à Agen, comme hier près de Toulouse et Narbonne, en plus du face-à-face tendu dans l'Ariège où des éleveurs tentaient d'empêcher l'abattage d'un troupeau entier pour un seul cas de dermatose nodulaire, cette maladie qui touche les vaches en ce moment, on va largement y revenir. Vous allez entendre la colère ce matin sur RMC du président de la région Centre-Val de Loire au lendemain de la liquidation de Brandt, le dernier fabricant d'électroménager français. Et puis une question, Karim Benzema a-t-il réellement des chances de revenir en équipe de France? Il ouvre la porte à un retour ce matin dans la presse.
Les agriculteurs continuent de se mobiliser ce matin contre les abattages de troupeaux.
À cause de cette maladie, la dermatose nodulaire, maladie contagieuse qui touche les élevages depuis des semaines, elle n'est pas transmissible à l'homme. Mais la consigne des autorités, quand il y a un cas, un seul cas, c'est d'abattre le troupeau entier. Les agriculteurs estiment donc que c'est disproportionné. Voilà pourquoi ils se mobilisent depuis le milieu de la semaine en Ariège. On va y revenir et le mouvement fait tache d'huile parce que en soutien, des opérations sont menées depuis hier près de Toulouse, près de Narbonne, à Saint-Gaudens, près de Tarbes aussi, en Lozère. Ou ici ce matin à Agen, des bottes de paille et du fumier déversés devant les grilles de la préfecture, comme nous le dit José Pérez, le président de la CR47, la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne.
Ça va être le départ de nouvelles manifestations. Alors peut-être lundi, peut-être début d'année, et on va choisir le bon créneau. Mais je le vois partout, nationalement, ça bouge. Tous les agriculteurs sont à bout. Et il faut vraiment que le gouvernement s'en rende réellement compte et qu'on nous laisse travailler, vraiment. Donc, on a décidé de faire une action un peu coup de poing pour leur dire, écoutez, on n'a plus besoin de vous. Maintenant, vous nous laissez tranquille. On va se démerder par nous-mêmes. Vu que vous êtes capable de rien faire dans ce pays, faites un moratoire sur toutes les réglementations françaises. Et nous, on va se démerder à produire et à vendre notre production.
Alors, c'est en soutien à cette mobilisation depuis mercredi en Ariège. Ce qui se passe autour d'une ferme pour un seul cas de dermatose nodulaire, c'est tout un troupeau de 200 vaches qui doit être abattu. Il y a eu un face-à-face tendu jusqu'à tard hier soir. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place tout autour de cette ferme pour RMC. En fait, les agriculteurs encerclaient la ferme jusqu'à hier soir pour empêcher les abattages. Ils ont été délogés et ce matin, ce sont les forces de l'ordre qui encerclent les lieux.
Oui, c'est ça. Un blindé de la gendarmerie bloque l'accès à la propriété depuis le milieu de la nuit. Juste derrière, il y a un important dispositif de garde mobile. Il n'y a plus d'opposants sur le site. Ils ont été dispersés hier soir par les forces de l'ordre. On va entrer maintenant ce matin dans la phase 2 de l'opération. La préfecture de l'Ariège affirme que les deux éleveurs ont donné leur accord pour l'abattage, ce que démentent de façon catégorique certaines organisations syndicales agricoles. La préfecture de l'Ariège je refuse de dire quand l'opération va pouvoir débuter. Ce sont des vétérinaires des services départementaux qui vont procéder à cette opération d'abattage avec au préalable l'endormissement des bêtes. Au total, ce sont 208 vaches de ce cheptel qui sont concernées. On ne sait pas si les deux propriétaires, les deux éleveurs vont assister avec leur famille, avec leurs enfants, petits-enfants à cette opération qui forcément pour eux sera difficile à vivre et cruelle.
Et je précise, Jean-Wilfried Forquès pour RMC, que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce ce matin 4 interpellations en Ariège, donc après le face-à-face et la colère qu'on a pu voir hier soir autour de cette ferme. La colère aussi ce matin sur RMC du président de la région Centre-Val de Loire. Vous savez qu'on est au lendemain de la liquidation judiciaire de Brandt, dernier fabricant français d'électroménager. 700 emplois, 2 usines près de Vendôme et Orléans donc qui vont fermer. En fait, d'après un document que RMC s'est procuré, la justice ne croit pas du tout au projet de reprise par les salariés, la fameuse SCOP, estimant que ce projet est voué à l'échec et, je cite, le simple prolongement d'une activité déjà condamnée. Écoutez ce qu'en dit donc ce matin sur RMC le président de cette région, François Bonneau.
Cette entreprise avait fait la preuve sur les 2 dernières années qu'elle était revenue à l'équilibre. Certes, elle avait des dettes, mais nous étions engagés dans un processus qui permettait de gommer ces dettes. C'est une décision qui est finalement une décision du renoncement, c'est clair, une décision de l'abandon et une décision du sacrifice. Et ça, c'est inacceptable. Et je considère que si nous continuons ainsi, la France industrie est complètement morte. Ce sont des marques qui sont emblématiques. Demain, elles vont être produites en Chine et on ira acheter des produits chinois.
Il est 8h04 sur RMC et je reçois dans une dizaine de minutes le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour dresser un premier bilan, notamment de ces fouilles XXL en prison.
Oui, fouilles qui ont commencé fin novembre et qui ont été menées dans une cinquantaine de prisons, comme hier soir à Meaux, en Seine-et-Marne. Constance Bostoen y a assisté pour RMC. Vous allez entendre donc le bilan. Une centaine de cellules inspectées, de la drogue et une vingtaine de téléphones retrouvés.
Après l'extraction des détenus vers la cour de promenade, chaque centimètre carré des cellules de la prison de Meaux est minutieusement fouillé par les agents pénitentiaires.
On va déjà récupérer tout ce qui est électronique et après on va vérifier les vêtements, les cantines, tout ce qui est oreiller, draps, tout ça, tout est passé au crible.
Car ici, les détenus rivalisent d'ingéniosité pour conserver des objets interdits comme des stupéfiants, des armes ou encore des portables.
Ils peuvent creuser des meubles, des fois ils creusent sur des frigos.
Et justement, au bout d'une heure de fouille, dissimulé dans un plateau de cantine en plastique.
Découvert dans une cellule d'une cache derrière un plateau. Ils utilisent un plateau avec un bout de plastique et le téléphone, il est au milieu.
Deux étages plus haut, deux équipes cynophiles s'activent. Et dans une cellule, le Malinois s'arrête. La prise est belle, 8 grammes de stupéfiants camouflés dans une taie d'oreiller. Pour permettre ces fouilles d'envergure, les équipes sont aussi accompagnées des Eros, des agents pénitentiaires équipés spécialement pour la détection des objets électroniques, car le besoin est bien réel, selon Dimitri Bénard, le chef d'établissement de la prison de Meaux.
Téléphone portable, il y en a beaucoup en détention. On en trouve, nous, sur le CP de Meaux, environ 1200 par an.
Après les fouilles place au temps judiciaire, une enquête sera ouverte par le parquet de Meaux pour chaque objet saisi lors de l'opération.
La suite des réquisitions aujourd'hui au procès du docteur Péché, l'ex-anesthésiste jugé depuis 3 mois aux assises de Besançon, accusé, vous savez, d'avoir empoisonné 30 patients. Il encourt la réclusion à perpétuité, décrit par l'accusation comme un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française. Image impressionnante à La Ciotat, près de Marseille, où une voiture a fini au fond de la piscine municipale hier soir. La conductrice, en fait, a fait une fausse manœuvre. Une mère et sa fille de 5 ans qui ont pu être secourues in extremis par les maîtres nageurs, raconte ce matin le journal La Provence, avec l'image donc de cette voiture portière ouverte au fond du bassin. Question ce matin, et vous, si vous étiez Didier Deschamps, est-ce que vous rappelleriez Karim Benzema en équipe de France? L'attaquant de 37 ans aujourd'hui en Arabie Saoudite qui ouvre la porte à un retour ce matin dans le journal L'Équipe avec l'idée de disputer la Coupe du Monde de l'année prochaine. Si on m'appelle, je viens. Voilà ce que dit Benzema. Pierre Thévenet pour RMC, ça semble compliqué quand même, non?
Oui, difficile d'envisager un retour en bleu de Karim Benzema à 37 ans. L'attaquant évolue depuis 2 saisons en Arabie Saoudite. Son retour renforcerait-il vraiment l'armada offensive des Bleus? Le champion du monde 98 et consultant football RMC, Lionel Charbonnier, n'en est pas certain.
Il y a déjà 3 ans de plus. Il est plus dans le même championnat. Je pense qu'il en a pas besoin. Mais à 300%, moi, je pense qu'il ne le reprendra pas. C'est mort.
Son potentiel retour est aussi et surtout compliqué par sa relation conflictuelle avec Didier Deschamps, notamment depuis la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur a entendu le message de Karim Benzema, mais depuis sa retraite internationale, un nouveau projet a été mis en place. Pour Jérôme Roten, consultant football RMC Sport, les deux hommes sont irréconciliables.
Je crois qu'il s'est passé des choses qui dépassent même le cadre sportif avec Didier Deschamps, et Didier a d'autres chats à fouetter dans son groupe, et en aucun cas je vois Didier Deschamps changer son fusil d'épaule.
Si la présence du Ballon d'Or 2022 dès la Coupe du Monde 2026 est difficile à envisager, après la compétition, l'arrivée potentielle à la tête des Bleus de Zinedine Zidane, son entraîneur au Real Madrid pendant 4 saisons, pourrait peut-être changer la donne.
Et c'est le dernier carré au Mondial féminin de handball. C'est à 17h45, notez l'horaire que la France va jouer contre l'Allemagne en demi-finale.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. Et Mathieu, vous avez de nombreux messages des internautes ce matin.
Cette pub Intermarché
cette
qui vous
pub
a
ému.
À Pau, et bien Françoise est pareil. J'adore les pubs Intermarché, elles sont magnifiques et tellement douces, drôles et tendres. Ça fait du bien, c'est rare que vous réagissiez autant à une pub. Sylvie nous écrit, toutes les pubs Intermarché sont top, ce sont des génies, ces mecs tellement différents de la bouillie des autres publicitaires. Vous continuez à réagir si vous le souhaitez, hein, si vous l'avez vu déjà, comme beaucoup, hein, j'imagine, ce loup qui devient végétarien pour pouvoir passer les fêtes de Noël avec ses amis. Autre succès français international, ce jeu vidéo multiprimé cette nuit aux awards du jeu vidéo aux États-Unis. Et Bruno y a joué. J'ai fini Clair Obscur, Expédition 33, c'est le nom du jeu. Un très bon moment de jeu vidéo, graphiquement, musicalement, l'histoire est bien, pleine de rebondissements. La fin surprenante, ça mérite cette récompense. Et Hackman nous dit, j'ai pleuré, il m'a fait pleurer, plus que beau, déchirant, chef d'œuvre absolu. Et j'ai 40 ans de jeu vidéo derrière moi. Voilà ce que dit Hackman ce matin sur le WhatsApp RMC.
Oh, vive la France!
Positif un peu.
Ah ouais, c'est extra. Il est 8h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange qui nous rejoint, l'invité du face-à-face, notez-le également, qui commencera à 8h25 ce matin. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Et puis juste après, Nicolas Canteloup, évidemment, comme chaque semaine. La semaine face à Canteloup, ce sera à 8h50. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Oh là, il est 8h13, c'est Arnaud Demange qui vient d'entrer dans ce studio.
Bonjour.
Salut Arnaud.
Bonjour, joyeux Noël.
Oh oui.
Car Noël approche. Découvrons aujourd'hui ce qui se cache dans notre calendrier de l'Avent du LOL. Et c'est une boule de chocolat fondu. Parce que cette semaine, il a fait 10 degrés de plus que les normales de saison. Alors, sur les marchés de Noël, les commerçants font la gueule. Ils vendent plus de vin chaud, plus... les clients sont là. Je vais vous prendre un mojito et un Mr. Freeze pour la petite. Vous pouvez nous mettre un parasol et un cendrier. Maman, comment il va faire le Père Noël pour venir en traîneau sur la neige s'il fait 20 degrés? Eh ben, demande à tonton, il croit pas au réchauffement climatique, tu te démerdes avec lui. Allez les enfants, Kylie Noé, Caramelia, Clafoutinaël, venez m'aider à décorer le cocotier de Noël. Oui, parce que les enfants ont des prénoms très originaux. Oui. Non, les parents sont crevés, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est pour ça, actu, transition, attention, c'est pour ça que le député LFI Émeric Caron a proposé cette semaine un congé parental de 5 ans. C'est vrai, hein. Apolline, vous avez 4 enfants. Si Émeric Caron avait été président, vous seriez encore en congé mat. 20 ans de congé mat. 4 fois 5 ans. Ça fait moins d'interview, hein. Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais je connais des gens qui en ont. Ma propre mère, déjà.
Ouais. Par exemple.
Mais aussi des amis. Je suis pas sûr qu'ils soient ravis qu'on leur annonce, tu vas être enfermé non-stop 5 ans avec tes enfants. 5 ans de maman. Maman. Quel enfer. Déjà 2 mois de confinement, ils étaient en PLS. Et Émeric Caron propose ici la semaine de travail de 15 heures. Bon, à ce compte-là, je vois pas pourquoi on va pas au bout de l'idée, quoi. Arrêtons de bosser, tout simplement.
Ouais, voilà.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Faudra quand même faire du tri dans les métiers, hein. Médecin de village, hein, 15 heures par semaine. Bon, ça va améliorer le système de retraite, c'est sûr. Mais chirurgien, t'as des opérations qui durent 20 heures. Le toubib, il va pas laisser le gars ouvert en deux tout le week-end. C'est un coup, est-ce que des mouches rentrent dedans et tout. C'est pas hygiénique, c'est pas bien de faire ça.
Non, j'aime pas beaucoup. Wesh, masculinisme, conclave font partie des 10 mots les plus recherchés désormais sur Internet, selon le Robert.
Oui, le dictionnaire, hein. Pas le Robert qui est en bas de chez moi, qui est le pilier de pouvoir du PMU. Lui, il dira jamais wesh, tu me remets un Ricard et après on va faire un conclave avec Bertrand et Daniel pour savoir sur qui on mise à l'autofoot. Le mot conclave a été très recherché après la mort de François, le pape, pas François Bayrou, parce que lui, il est juste mort politiquement après son conclave. Physiquement, il est toujours à peu près en vie. Je dis à peu près parce qu'on sait pas trop, en fait. Comme il a l'élocution d'un mec qui vient de faire un AVC, on sait pas, ça va François? Je vais bien.
Ah bon, écoutez, tant mieux.
Et donc, wesh, dans le top 10. Mais alors là, je vois pas les jeunes faire cette recherche Google. Donc à mon avis, c'est les retraités qui jouent au Scrabble qui sont là. Bon, alors en utilisant le W du Dawa de Georgette, je fais wesh 54 points mot contre triple. Alors t'as pas le seum de t'être fait ken par mon wesh? Moi la boulaga, Georgette.
La proposition du RN de rouvrir les maisons closes continue de faire débat.
Déjà que la France est en bordel, autant les rouvrir. Hein. Alors, Marine Le Pen soutient cette loi et c'est un retour aux sources pour elle. Souvenez-vous, son parrain, c'était Henri Bottet, alias Monsieur Éric, l'empereur de Pigalle, aussi surnommé Razmotte. Vous vous souvenez de cette histoire? Non, Jean-Marie Le Pen avait nommé parrain de Marine Le Pen le plus grand proxénète des années 70. Quelle drôle d'idée. Un catholique pratiquant, vive la messe en latin, mais il prend pour parrain le roi des macros qui règne sur 2000 prostituées et qui a des copains braqueurs de banque. C'est vraiment comme Bolloré qui programme des émissions chrétiennes et juste derrière, il fout Jean-Marc Morandini qui a plus le droit d'approcher d'un mineur. Mais souvenez à moi les pistagères. La pauvre Marine. Allez Marine, on va voir parrain. Et Zou, il emmène sa fille de 4 ans au Sixi Ploum Ploum. Elle se balade au milieu de gens tout nus qui disent « Oh, monsieur le secrétaire d'État, ça faisait longtemps !» Et elle voit des vieux énarques chauves et torse nus en caleçon rayé avec des fixes chaussettes comme dans Tintin. Voyez, et des filles seins nus avec des plumes d'autruche. Non mais Apolline, vous auriez pas emmené vos enfants de 6 ans au cabaret du Nichon qui fume ou au Ploum Ploum Sixi de Pigalle? Pas ceci dit, si vous voulez, pensez-y pour le week-end, hein, c'est une activité sympa.
Tout à fait, nous sommes vendredi.
Mais oui,
des belles activités. Merci beaucoup Arnaud, qu'on retrouve tous les jours, mais aussi en podcast et en tournée, tiens, partout en France avec un nouveau spectacle. Ce sera à Lyon, à Toulon, à Hyères, à Bordeaux, à Rouen et partout ailleurs avec RMC. Il est 8h17 et c'est l'heure du gagnant du jeu.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Ce It's Time chaque jour me surprend. À 8h17, c'est Caroline qui a gagné. Bonjour Caroline.
Bonjour Apolline.
Caroline, conductrice poids lourd. Vous êtes au volant là?
Oui, voilà, je suis en coupure, c'est bon.
Sacré nana, dis donc Caroline. Caroline dans la région de Haute-Garonne. Déjà j'aime Caroline. Alors maintenant on va ouvrir ensemble la case. Alors on est 4 jours, je sais jamais. Oui, 12. Alors on est le 12. Attention Caroline, vous êtes prête?
Oui, allez-y.
Vous venez de gagner 1000 euros.
Oh, c'est super.
Vous venez de gagner 1000 euros.
Ah,
1000 euros cash. J'ai le chèque entre les mains. Caroline, félicitations.
Merci beaucoup.
Vous êtes où là Caroline?
À Carcassonne
en plus. On a envie d'être avec vous dans le camion. Caroline, je vous souhaite une très très belle journée. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il répond à mes questions. Il vient défendre son futur projet de loi pour, je cite, une justice plus ferme. Et puis la réponse aussi sur le narcotrafic et même sur le budget. Parce que Gérald Darmanin, au fond, c'est le dernier poids lourd politique de ce gouvernement. Gérald Darmanin, donc, face à mes questions dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
C'est le retour de la colère agricole en Ariège notamment, où des affrontements ont éclaté hier soir à Bordes-sur-Arize entre gendarmes et éleveurs. Ils étaient environ 500 à tenter d'empêcher l'abattage de tout un troupeau contaminé en partie seulement par la dermatose nodulaire. 4 d'entre eux ont été interpellés, annonce ce matin du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Les forces de l'ordre ont finalement repris le contrôle de la ferme, mais d'ores et déjà le syndicat agricole Coordination Rurale prévient que d'autres actions vont suivre. Une décision de justice qui fait beaucoup réagir, le placement en liquidation judiciaire du fleuron tricolore Brandt, dont le projet de reprise par ses salariés n'a pas été retenu, trop dangereux selon le jugement qu'RMC s'est procuré. Les 700 salariés de la marque d'électroménager comme Renault se retrouvent donc au chômage.
Noël 2025, oui, malheureusement, il ne sera pas comme les autres années. Quand on passe 40 ans de notre vie dans notre entreprise, c'est compliqué. Il y a des gens qui vont se retrouver tout seuls à la veille de Noël. Oui, c'est une grosse, grosse émission. C'est compliqué. Et là, je pense que dans les jours à venir, on va avoir la retombée de tout ça. Et ouais, ça va être compliqué. Il va falloir être solide et rebondir. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais oui, c'est compliqué.
Et puis quand même une bonne nouvelle, ce matin au Panthéon des monuments français vient de s'ajouter le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33 qui repart de Los Angeles avec 9 statuettes des Game Awards, les Oscars du gaming et notamment le très convoité titre de jeu de l'année. C'est la première fois qu'un studio tricolore le décroche. On ne l'avait pas vu venir, l'appel du pied de Karim Benzema pour revenir en équipe de France. Le Ballon d'Or ouvre la porte dans une interview ce matin accordée à nos confrères de l'équipe. Et puis les Bleus du Hand affrontent cet après-midi l'Allemagne pour tenter de décrocher une place en finale du Mondial. Coup d'envoi à 17h45, à vivre évidemment, vous le savez, sur RMC.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il viendra d'abord développer son nouveau projet de loi. Il veut une justice plus ferme. Et puis, premier bilan des fouilles XXL, lutte contre le narcotrafic. De très nombreuses questions à poser à Gérald Darmanin, dernier ministre poids lourd de ce gouvernement. À tout de suite. Et c'est l'heure du face-à-face. Il est arrivé à l'instant. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Vous êtes le garde des Sceaux, ministre de la Justice. De très nombreuses questions à vous poser parce qu'en plus, votre parole est de plus en plus rare désormais. Vous vous faites discret sur les questions politiques, mais là, il y a vraiment du boulot et notamment sur le front de la justice pénale. Vous venez notamment détailler votre projet de loi. Je cite le titre de votre projet de loi. Un projet de loi visant à assurer une sanction utile, rapide et effective. En gros, une justice plus ferme. Est-ce que ça veut dire qu'en creux, vous reconnaissez qu'aujourd'hui, les sanctions ne sont ni utiles, ni rapides, ni effectives ?
Alors, la justice est lente et c'est, je pense, la grande injustice de notre pays. Le temps trop important que la victime, que l'accusé attend, que la société attend pour la sanction. Ça, c'est sûr. Et cette lenteur de la justice, ça vaut dans la justice pénale, ça vaut aussi dans la justice civile. On attend trop souvent son divorce, la garde de ses enfants, la tutelle, son problème immobilier qu'on doit régler. Est-ce que la justice est efficace? Elle l'est en partie, mais elle l'est pas totalement. La moitié des peines de prison prononcées par les tribunaux, les gens ne vont pas une seule journée en prison. Est-ce que c'est efficace de prononcer des peines de prison qu'on ne fait jamais? Autant ne pas les prononcer et faire celles que l'on prononce. Et puis, est-ce que c'est utile? Il y a 70% de récidives dans notre pays. Quand les détenus sortent de prison, ils récidivent 7 fois sur 10. Ça montre que notre système n'est pas efficace.
Quand je vous écoute, c'est un constat terrible.
C'est un constat terrible parce que la justice est très important pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça cimente évidemment la démocratie, ça nourrit le populisme que de voir une justice inefficace. Je constate malheureusement que tous les pays européens ont les mêmes difficultés parce que nous avons basé notre système de justice sur le fait qu'il fallait être très récidiviste pour pouvoir être sanctionné lourdement.
Au fond, ça laissait entendre qu'on pouvait, pendant un temps relativement long, agir impunément.
En tout cas, sans que les sanctions ne soient ni rapides ni dissuasives. Et donc, les gens qui vont en prison, l'immense majorité des gens qui vont en prison, ce sont des gens qui ont commis beaucoup, beaucoup d'actes. Et alors là, les policiers, les gendarmes disent, on arrête les personnes et ils vont jamais en prison. Vous connaissez cette formule. J'étais mise à l'intérieur, je l'ai constaté, je l'ai vu. On a des juges, des magistrats qui disent, mais alors moi, j'ai quelqu'un qui est très récidiviste, qui a déjà des addictions, de la drogue et d'alcool, qui est déjà très désocialisé. À quoi ça sert que je le mette en prison? Ça va pas arranger sa socialisation. S'il a des maladies psychiatriques, il devrait pas aller en prison, devrait aller ailleurs.
Ça veut dire que les juges s'auto-censurent ?
Non, ça veut dire que les magistrats ont malheureusement un code pénal qui ne les aide pas. Par exemple, dans le code pénal, il est écrit que une peine c'est égal à 6 mois de prison et autant d'amende. Mmh. Et il y a dans le même code pénal un article qui dit qu'à 6 mois de prison, on fait pas de prison. Il y a un aménagement de peine obligatoire.
Donc tout ça est totalement contradictoire.
C'est absurde. Il y a des dispositions législatives qui ont été rajoutées au fil du temps qui sont absurdes. Aujourd'hui, la quasi-intégralité des personnes qui sont condamnées à moins d'1 an de prison ne font pas du tout de prison. Alors le projet de loi que je porte...
Ça va changer.
Exactement. Il met fin à l'aménagement de peine obligatoire. Le juge pourra prononcer des courtes peines, comme c'est le cas dans d'autres pays, je pense notamment aux Pays-Bas ou en Angleterre. Les courtes peines, c'est quoi? C'est des peines 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de prison. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de la peine. Ce qui compte, c'est la certitude de la peine. C'est d'être certain qu'au premier ou au deuxième fait, en tout cas après un carton jaune, il doit y avoir un carton rouge, on puisse avoir une sanction claire, rapide, qui montre à la victime, à l'accusé, à la société que la justice fait quelque chose.
Donc création de courtes peines, voire d'ultra-courtes peines. C'est-à-dire que vous preniez l'exemple de la Hollande. En Hollande, on peut même aller pour quelques jours en prison.
Alors on laissera le juge totalement libre de fixer la peine qu'il doit fixer. Et donc en effet, il peut y avoir des peines d'un mois. Aujourd'hui, elles sont interdites dans le code pénal. C'est tout à fait possible. On va adapter notre immobilier carcéral, nos prisons à ça. On ne va pas envoyer des gens qui font 2 mois de prison dans les maisons d'arrêt classiques, qui sont déjà surpeuplées. On aura l'occasion d'en reparler. Mais oui, il y aura des courtes peines possibles prononcées par le juge.
Peine obligatoire pour chaque condamnation. C'est-à-dire que chaque condamnation, il y aura une peine. Parce que parfois, aujourd'hui, on peut être condamné sans qu'il y ait vraiment de peine à proprement parler.
Vous avez tout à fait raison. Ce n'est que quelques centaines de cas par an. Il ne faut pas faire croire aux Français qu'il n'y a aucune peine. Mais parfois, la peine n'est pas du tout proportionnée à la difficulté que nous connaissons. Et donc, il y a notamment dans le texte de loi que je propose, quelque chose de très nouveau, qui est une peine minimale. C'est pas la peine plancher. La peine plancher, c'était une peine qu'on appliquait quand il y avait récidive. Là, c'est une peine minimale, y compris au premier fait. Et en l'occurrence, la première peine minimale qu'on propose, c'est tous ceux qui attaquent les policiers, les gendarmes, tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique, les agents pénitentiaires, les magistrats, tous ceux qui représentent l'autorité. Et ben, par exemple, c'est une peine minimale. La proposition que je fais dans le texte de loi, c'est 1 an. 1 an de prison. Donc, il y aura une peine maximale et une peine minimale. Et le juge y fixera entre cette peine minimale et maximale.
Il y a aujourd'hui beaucoup d'aménagements pour un certain nombre de profils de personnes condamnées, notamment pour les OQTF. Est-ce que demain vous vous dites il faut quelque chose de spécifique là-dessus? Est-ce que vos premières expériences à la fois d'abord pendant longtemps au ministère de l'Intérieur et aujourd'hui à la justice, vous dites qu'il y a un problème là et qu'il faut le régler?
Alors aujourd'hui, il y a 25% d'étrangers dans nos prisons et une partie de ces étrangers doivent partir de nos prisons pour purger leur peine dans leur pays d'origine. Alors nous avons beaucoup augmenté depuis le début de l'année, j'ai augmenté de quasiment 100% les expulsions des étrangers qui sont dans nos prisons. Il y a une partie d'Européens et il y a 3/4 qui ne sont pas Européens. Et puis ensuite, il y avait dans notre code, en effet, des choses un peu bizarres. Par exemple, des aménagements de peine, donc des sorties de prison possibles pour réinsertion. Ça peut très bien se comprendre pour des détenus qui trouvent un travail, qui retrouvent leur famille et qui ont un projet de vie, qui doivent sortir de la prison pour se réinsérer. Et il faut que nous le fassions. La réinsertion, c'est très important. Simplement, quelqu'un qui est sous OQTF, qui ne devrait pas être sur notre territoire national.
Non, mais attendez, vous êtes en train de me dire que ça s'appliquait aux OQTF?
Exactement. Dans la loi, aujourd'hui, les agents pénitentiaires, les magistrats sont obligés d'appliquer la la loi et qui était mal écrite, c'est tout, c'est comme ça, il faut la changer, c'est pas de leur faute, faisaient des aménagements de peine pour des EQTF. Alors que ces aménagements de peine, la seule aménagement de peine possible pour un EQTF, c'est qu'ils soient expulsés. Moi, je suis d'accord pour que les EQTF sortent de prison s'ils sont expulsés dans leur pays d'origine. Oui. Mais pas pour retrouver un travail ou pour retrouver une famille qu'ils ne devraient pas retrouver, puisqu'ils sont étrangers en situation irrégulière et qu'ils ont été condamnés.
Vous venez de dire, Gérald Darmanin, qu'il y avait 25% d'étrangers dans nos prisons, dont les trois quarts de ces étrangers extra-européens. Exact. Est-ce que, comme certains, vous estimez qu'il y a une relation entre immigration et délinquance ?
Ah, il y a une partie de relation entre immigration et délinquance. Tous les étrangers, évidemment, ne sont pas délinquants. L'immense majorité d'entre eux respectent notre pays, travaillent, envoient leurs enfants à l'école, veulent mieux vivre. Mais les étrangers sont surreprésentés dans la délinquance française. Ça, j'ai non seulement été ministre de l'Intérieur, mais j'ai été maire et maire de ma commune et même citoyen. Le citoyen voit bien qu'il y a par une mauvaise intégration, par des difficultés extrêmement fortes qui sont liées parfois à la pauvreté, parfois au trafic de drogue, parfois au trafic d'êtres humains. Les étrangers sont plus auteurs que les autres d'actes de délinquance, ils sont aussi plus victimes que les autres d'actes de délinquance. Par exemple, les femmes étrangères sont plus victimes de violences que les femmes qui sont françaises, même s'il y a beaucoup de femmes françaises qui sont victimes de violences. Donc oui, il y a un certain lien qu'il faut combattre, et notamment par une immigration beaucoup mieux contrôlée et beaucoup mieux intégrée, et surtout une justice plus ferme avec les étrangers qui commettent des actes de délinquance.
Une justice plus ferme, on va revenir aussi à la question du narcotrafic. Vous voulez que le régime contre les narcotrafics soit proche de celui des terroristes, mais vous avez évoqué la question des lieux dans lesquels ces gens sont incarcérés. Et récemment, il y a eu aussi la question de ce qu'il se passe à l'intérieur des prisons. Est-ce que ces prisons sont désormais des états de non-droit? Je voudrais que vous puissiez regarder ce document. Je vais le commenter évidemment pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Cette vidéo que BFM TV s'est procurée, elle a été tournée le 9 novembre dernier. C'est une scène d'une violence inouïe qui se passe au sein de la prison de Nantes. On y voit un détenu entièrement nu, ensanglanté, traîné sur le bitume de la cour intérieure de la prison. En réalité, c'était deux groupes de détenus qui se battaient lors d'une promenade. Et pourtant, aucun gardien n'est intervenu parce qu'ils ont considéré que c'était trop dangereux. Quand les gardiens eux-mêmes ne peuvent même plus intervenir, alors qu'on est au sein d'un lieu qui est un lieu normalement dans lequel on fait régner la loi.
Oui, il faut rétablir l'ordre dans nos prisons, c'est incontestable, et ça fait 11 mois que je suis ministre de la Justice et que j'essaye de le faire, et je pense avec une certaine réussite. D'abord les prisons de haute sécurité qu'on a construites en 5 mois. En 5 mois, on a su faire en France des prisons que d'ailleurs les étrangers viennent visiter, qui montrent qu'il n'y a pas de téléphone portable, pas de drogue, pas de clé USB, pour les gens les plus dangereux. Ceux qui sont capables de s'évader, de commander des assassinats, et notamment une grande partie des narcotrafiquants. À la suite de l'affaire Amra, moi je veux regarder les victimes de l'affaire Amra dans les yeux et leur dire que je peux faire, j'ai fait des choses pour la sécurité des agents pénitentiaires et des Français. Mais il y a tout le reste, toutes les autres prisons où on sait que le téléphone portable, le shit, des couteaux par drone, par le parloir, par corruption aussi, rentrent. Là, nous faisons des fouilles en ce moment qui n'avaient jamais été faites de cette ampleur dans les prisons. On a 80 fouilles. On a encore une centaine de prisons à fouiller.
Ces fameuses fouilles XXL, j'y reviens dans un instant, mais sur ces images, quand vous les avez découvertes, j'imagine que vous les aviez avant que nous, à BFM TV, ayons. Mais elles sont saisissantes, parce qu'on se dit, au fond, ça c'est au sein d'une prison, si les gardiens eux-mêmes ne peuvent pas intervenir.
Elles ne me surprennent pas vraiment, puisque c'est le cocktail affreux de « il manque des agents pénitentiaires, moi j'en rajoute 1000 au prochain budget, il manque 4000 agents pénitentiaires dans nos prisons. » Donc c'est des gens très courageux, mais ils sont pas assez nombreux. Donc moi je les comprends très bien qu'ils aient aussi parfois peur, et moi je veux les soutenir, et l'année prochaine il y a 1000 agents supplémentaires de plus.
S'il est voté, enfin ça j'y reviendrai.
Mais moi je crois que, vous voyez, devant les difficultés que notre pays a, on peut pas se priver de policiers, de gendarmes, d'agents pénitentiaires ou de magistrats. L'année prochaine, il y a 1000 agents supplémentaires de plus. Nous construisons désormais 3000 places de prison par an. On a repris la reconstruction de places de prison qui avait été en partie arrêtée, et nous manquons de places de prison en France. Il y a 86 000 détenus, 65 000 places grosso modo. Et troisièmement, il y a dans nos prisons beaucoup de gens qui devraient pas y être non plus. C'est-à-dire, je pense aux gens qui sont atteints psychiatriquement. 25% des détenus ont des maladies psychiatriques.
Avant même de rentrer?
Avant même de rentrer.
Une fois qu'ils sont
évidemment,
rentrés.
Une fois qu'ils sont en prison, une cellule de 9 mètres carrés n'arrange pas votre pathologie. Mais 25% des gens qui sont emprisonnés sont touchés par une maladie psychiatrique. Ils ne devraient pas y être, ils devraient être en hôpital psychiatrique. Et donc les agents pénitentiaires, la prison, gèrent toutes les difficultés de la France en pire. L'analphabétisation, les addictions à la drogue et à l'alcool, très importantes, et des maladies psychiatriques ou une mauvaise intégration des étrangers.
Vous venez de parler de ces fouilles. BFM TV et RMC ont d'ailleurs pu assister ces derniers jours à un certain nombre de ces fouilles. Fouilles objectif zéro portable. Ça a duré encore cette nuit. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous faire de ce que vous avez trouvé dans ces cellules ?
Oui, donc sur ces grandes fouilles que nous organisons avec des centaines d'agents, de la police, la gendarmerie, les douanes que je remercie, avec des chiens qui viennent regarder si on trouve des téléphones portables ou de l'argent ou de la drogue. Sur les 80 premières prisons que nous avons fouillées, il y en a à peu près 200 en France, on a trouvé 1100 portables, quasiment 10 kilos de drogue et à peu près 1500 objets interdits. Je pense à des couteaux, par exemple, ou à des objets électroniques. Hein. J'ai vu à la prison de Nanterre, de mes yeux vus, parce que je participe la nuit avec une partie des agents pénitentiaires à ces fouilles, des lunettes connectées, par exemple.
Des lunettes connectées.
Exactement. Donc, en fait, on voit bien.
Rentre
ça rentre de partout. Ça rentre parce qu'il y a des drones qui viennent livrer des colis. Ça rentre parce que il y a ce qu'on appelle des projections. Ceux qui habitent près des prisons voient qu'on lance parfois des choses à travers les murs. Ça rentre par le parloir, parfois par les familles. Ça rentre par aussi la corruption d'agents pénitentiaires. Ça peut arriver. Et donc, on voit bien qu'on a laissé faire des choses.
Vous avez dit deux fois le mot corruption. J'y reviendrai. Mais Gérald Darmanin, quand vous dites sur ces saisies donc de portables, de drogue, il y a aussi le sentiment qu'il y a une forme de provocation. Et donc, s'il y a provocation, il y a sentiment d'impunité. Il y a 10 jours, il y a eu 2 détenus qui s'échappaient de la prison de Dijon. L'un d'eux, me semble-t-il, a été rattrapé. L'autre court toujours, d'ailleurs.
Oui.
Gérald Darmanin, on découvre a posteriori que l'un de ces deux avait un compte TikTok, un téléphone internet donc, un compte TikTok où il se filmait en direct de sa cellule et où il vendait même via TikTok de la drogue et des téléphones portables. Et puis, à la prison de Châteaudun, et ça on peut voir les images, il y a un détenu, en ce moment même semble-t-il, qui a 2 comptes TikTok, qui cumule à lui tout seul plus de 60 000 followers. Il s'exprime sous le titre de « Le Déjanté ». Comment est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que non seulement ça veut dire qu'ils ont un portable, qu'ils ont Internet, mais ça veut aussi dire qu'ils n'ont peur de rien puisqu'ils le font à visage totalement découvert. Nous, on floute parce qu'on respecte la loi, mais en réalité, ils le font à visage découvert. C'est-à-dire qu'ils n'ont peur de rien. On sait où ils sont, on peut les retrouver sur TikTok, ou alors vous êtes naïf et vous regardez pas TikTok quand vous travaillez dans les prisons.
Je pense que je suis tout sauf naïf et que justement je remets de l'ordre dans les prisons. Il y a 80 000, 86 000 détenus et il y a 200 prisons et nous sommes en train de rétablir l'ordre dans chacune d'entre elles. Évidemment, ça prend du temps. Je le fais avec beaucoup de fermeté. Je pense qu'une partie de ce que vous évoquez n'existe plus et quand on aura l'occasion d'en reparler, on pourra aussi dire que pendant la loi et je pense dès le début du mois de janvier, je prendrai une disposition réglementaire, c'est-à-dire sans passer par la loi, qui met fin aux remises de peine lorsqu'on trouve un téléphone portable dans une prison. Parce qu'aujourd'hui, quand on trouve un téléphone portable dans une prison...
Donc tous ces téléphones que vous avez trouvés, ça a comme conséquence immédiate qu'ils n'auront pas de remise de peine.
Je change en ce moment le règlement, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on trouve un téléphone dans une prison? La plupart du temps, on le jette, point. Il y a parfois du quartier disciplinaire, pendant 10 jours, 5 jours, 12 jours, les détenus vont dans le quartier disciplinaire, mais il ne se passe pas grand-chose. Bon, donc là, il faut qu'on arrête cette naïveté. Je vais changer le règlement, je vais changer nos textes de loi très rapidement pour le début du mois de janvier pour dire que ceux qui ont un téléphone portable et que l'on trouvera une fouille et qu'on les trouvera, fallait-il faire des fouilles jusqu'à présent, on ne le faisait pas forcément à ce niveau, eh ben, ils n'auront pas de remise de peine.
Est-ce que ces fouilles, elles vont avoir lieu une fois ou est-ce qu'elles vont désormais être répétées régulièrement?
Exactement, je mets en place une police pénitentiaire, c'est-à-dire des gens dont le travail sera de faire ces fouilles de façon systématique et évidemment, elles seront très largement mises en place, mais aussi des fouilles au parloir, parce qu'une partie de ces objets rentrent par les parloirs. Et je constate que dans certaines prisons d'Île-de-France, désormais, les fouilles sont systématiques au parloir tous les jours et c'est une très bonne chose. On trouve plus de drogue, si je prends l'exemple de la maison d'arrêt de Nanterre, le contrôle qui a été encore fait au parloir hier par le préfet de Hauts-de-Seine que je remercie, montre que nous avons rétabli, me semble-t-il, des gens qui acceptent d'aller voir les détenus sans apporter de drogue, sans apporter de téléphone.
Autre contradiction parmi ce que vous avez pointé, Gérald Darmanin, la prison de Vendin-le-Vielle, c'est une des prisons que vous avez souhaitées comme des prisons de haute sécurité, comme on dit, avec des détenus sélectionnés comme étant parmi les plus dangereux du pays. Pas de téléphone, pas de contact avec l'extérieur. Et pourtant, le 24 novembre dernier, l'un des détenus de cette nouvelle prison de haute sécurité a obtenu une permission de sortir. Par le juge des libertés. Contrairement à ce qu'avait demandé justement le directeur de la prison et le parquet. Mmh. Et donc il est passé d'une prison où vous êtes, vous le dites encore ce matin, il est censé être coupé du monde, ne pas avoir accès à un téléphone portable, à tout d'un coup une journée où il a pu traverser la France, prendre le TGV, utiliser à volonté le téléphone de sa femme. Il y a quand même un problème. Il y a une contradiction manifeste.
Le juge d'application des peines l'a décidé. Moi, je critique pas une décision indépendante d'un juge. Non, parce qu'il applique la loi. La loi est donc mal faite. On va changer la loi. Personne ne comprend quelqu'un qui soit en régime carcéral de haute sécurité. C'est le même régime anti-mafia en Italie. Hein. La France n'invente rien. Elle a copié la fermeté italienne qui a fonctionné dans la lutte anti-mafia. Et ben évidemment, quand vous êtes dans un quartier de haute sécurité, vous ne pouvez pas, alors que votre libération est supposée être dans 3 ans, avoir un entretien d'embauche physique. On aurait pu le faire d'ailleurs en vidéo, en visio, c'était tout à fait possible d'ailleurs, par l'application d'une règle absurde.
Mais ça, pardon, le juge pouvait tout à fait en décider. Il aurait pu dire, j'autorise cet entretien d'embauche, en plus un entretien d'embauche potentiel avec un futur employeur. Écoutez, je l'autorise, mais par visio.
Il n'a pas souhaité le faire. Comme il faut que l'on puisse mettre.
Donc c'est pas juste une question de loi, c'est aussi une question à un moment de choix d'application.
Eh ben, on va changer la loi. S'il y a une telle interprétation possible qui choque à ce point les Français et qui rend en effet...
Qui vous a choqué, vous ?
Bah, ça rend absurde un système de haute sécurité si quelqu'un, en effet, peut, dans la journée, sortir. Et c'est même insultant pour le travail des agents pénitentiaires qui prennent des risques très importants contre ces personnes potentiellement très dangereuses, qui sont d'ailleurs envoyées dans les prisons par avis du juge d'instruction. Je veux dire, c'est pas le ministre de la Justice qui tout seul décide
ses
affectations. C'est des services de renseignement, les policiers, les gendarmes et les magistrats. Donc c'est quand même de ses collègues, des collègues qui le décident. Bon, le juge d'application des peines et cette décision a été confirmée en appel. Hein, donc il y a eu 2 décisions de justice qui permettaient à cette personne de pouvoir avoir cet entretien. Ben, on va changer la loi si la loi permet cet entretien. Et cette loi, elle va permettre en effet de faire un parallèle entre ce que nous faisons contre l'activité terroriste et les activités de narcotrafic. Le narcotrafic qui tue parfois même beaucoup plus que le terrorisme en France. Alors évidemment, c'est très choquant ce que je peux dire, mais tous les jours... Il y a des tentatives de meurtre, il y a des corruptions actives.
Mais le terrorisme,
actives.
C'est pas le nombre de morts qui est le problème.
Non, je ne compare pas.
C'est évidemment.
Je ne compare pas les deux choses.
Ce que
je
veux dire, c'est aussi que la puissance de ce que ça dit de notre société.
Oui, bah je pense que quand une jeune fille qui révise toute seule dans un immeuble à Marseille se
et
prend
une balle perdue,
je pense que ça touche aussi notre société très profondément. Je pense que quand le frère de quelqu'un qui est un lanceur d'alerte écologiste est assassiné de plusieurs balles dans la tête. Devant sa mère, je pense que ça dit quelque chose de notre société. Et donc moi, je ne peux pas être quelqu'un qui dit bon, c'est comme ça et puis c'est tout.
Est-ce que vous estimez
le
d'ailleurs que ce meurtre
est une menace pour la sécurité intérieure de notre pays?
Ce meurtre, vous évoquez le meurtre du frère d'Amine Kessassi, c'était il y a bientôt un mois. Pour vous, c'est un tournant. Est-ce qu'il s'agit en effet d'une forme de terrorisme au sens terroriser tous ceux qui voudraient parler, remettre de l'omerta? Bon. Est-ce qu'il y a de cela?
Mais c'est incontestable. Que dans l'acte de terreur, il y a l'assassinat, il y a la démonstration, qu'on s'en prend pas simplement à celui qui tient le point de deal ou à celui qui veut reconquérir votre territoire. Jusqu'à présent, c'était un peu ça. Moi, j'ai souvent entendu, oh, bah, ils se tuent entre eux. J'ai trouvé une phrase que j'ai détestée parce que on voit bien que ensuite.
Dans ce cas-là, ça nous, au fond, finalement, bon, bah, ça nous regardait pas, quoi.
Mais pendant longtemps, je pense que les gouvernements, quels qu'ils soient, se sont dit bon bah voilà, ce dérèglement entre voyous. Mais on voit bien qu'aujourd'hui ça touche des lanceurs d'alerte, des journalistes. Il y a en Belgique et aux Pays-Bas des avocats de vos confrères qui font des enquêtes sur les
qui
mafias
sont menacés.
Qui sont même assassinés dans les rues d'Amsterdam, de Rotterdam ou de Bruxelles. Il y a des magistrats qui sont assassinés et il y a, on le sait, une volonté de lutter contre même l'autorité de l'État. Donc oui, c'est un acte de terreur.
Il y a le mot que vous avez lâché, corruption. Vous l'avez dit à 2 reprises, oui. Spontanément, depuis le début de cet entretien. 2 jeunes agentes administratives, on l'a appris il y a 2 jours, du tribunal judiciaire de Marseille, ont été mises en examen pour la consultation illégale de fichiers qu'ensuite elles monnayaient plus ou moins à un interlocuteur qui était proche de la DZ Mafia. Est-ce que ça veut dire que désormais l'État est corrompu?
L'État n'est pas corrompu, mais l'État doit lutter contre la corruption de certains de ses agents. parce qu'ils mettent en danger d'ailleurs les autres agents. C'est vrai dans l'administration pénitentiaire, c'est vrai dans la magistrature, c'est vrai dans les agents qui travaillent pour les magistrats, et d'ailleurs je me félicite, même si on verra bien si ces personnes sont coupables à la fin. Je mets du conditionnel, elles ont la présomption d'innocence. Mais que ces personnes ont été confondues par la cellule anticorruption que nous avons mis en place au parquet de Marseille, puisque désormais nous devons regarder les choses en face. Et je pense que le ministère de la Justice est la seule vraie administration, avec les douanes peut-être, qui regarde en face la corruption.
Vous laissez
possible.
Entendre que cette question, elle s'est posée aussi dans la police.
Exactement.
Elle se pose dans la gendarmerie.
Au service des impôts. Elle se pose aussi chez les élus locaux, dans l'administration locale, parce qu'il y a.
Et si donc il faut se pencher là-dessus aujourd'hui. Toutes les administrations se penchent là-dessus.
Exactement, mais je pense qu'il faut bien comprendre que les narcotrafiquants, ils ont une surface financière extrêmement importante. Cet argent qui corrompt jusqu'au cœur des hommes, disait le président Mitterrand, cet argent, il permet de pouvoir acheter tout le monde. Et Monsieur Amra, au bout de quelques mois de cavale, et ça coûte très cher une cavale, Monsieur Amra, il a su proposer 2 millions d'euros aux policiers roumains qui venaient l'arrêter après autant de mois de cavale. Imaginez ce qui se passe dans les prisons, chez les services enquêteurs, chez les gens qui travaillent auprès des magistrats, qui ont des informations, parfois des élus locaux, à qui on dit de fermer les yeux pour pas installer la caméra de vidéosurveillance.
Non seulement on leur donne de l'argent, mais on menace aussi leurs proches.
Alors, la corruption, elle a plusieurs facettes. Ça peut être aussi quelqu'un. Moi, j'ai un agent pénitentiaire dont je me rappelle très bien le visage, qui m'a expliqué qu'un détenu, ça m'a d'ailleurs convaincu de faire les prisons d'haute sécurité, souhaitait l'anniversaire de sa petite fille qu'il ne connaissait pas,
en l'appelant par son prénom. Sous-entendu, je sais.
Exactement.
Et votre fille, je sais où est-ce qu'elle habite et je sais son
travail. Et notre travail, c'est de protéger les agents aussi de ça.
Gérald Darmanin, le protoxyde d'azote. Vous avez reçu hier la famille de Matisse. C'est ce jeune de 20 ans qui a été fauché à Lille par un chauffard qui fuyait un contrôle de police, n'avait plus le permis et conduisait sous protoxyde d'azote. Est-ce que le protoxyde d'azote sera mis sur la liste des stupéfiants?
Oui, je le souhaite. Je le souhaite. Avec Laurent Nunez, on a reçu la famille, la maman très digne. Et je pense au papa, évidemment, de Matisse. Je le souhaite. Le protoxyde d'azote doit être vu comme un stupéfiant. Et par ailleurs, je veux aussi dire que c'est aussi le drame de la récidive, la mort de Matisse. Le chauffard avait 11 condamnations. 11 condamnations.
Et alors, est-ce qu'il y aura une interdiction officielle de détention et de consommation du protoxyde d'azote au volant?
Je le souhaite, et je souhaite aussi qu'on puisse saisir le véhicule lorsqu'on trouve du protoxyde d'azote dans le véhicule, et je souhaite que ce soit une circonstance aggravante lorsqu'il y a des accidents et lorsqu'il y a des assassinats involontaires. On appelle ça désormais un homicide routier, selon la loi qu'on vient de faire adopter. Je souhaite qu'effectivement le protoxyde d'azote soit vu comme la drogue.
1000 nouveaux agents dans le prochain budget, avez-vous dit? Encore faudrait-il qu'ils soient votés? C'est toute la question. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que votre famille politique, c'est toujours ce qu'on appelait initialement le socle commun, quand on voit que ni LR ni Horizon n'ont voté pour, au contraire du PS.
Une partie d'Horizon et une partie d'LR ont voté pour.
Au contraire du PS.
Alors, le budget de la sécurité sociale n'est pas le meilleur budget que l'on ait fait. C'est un budget qui met parfois plus d'impôts, parfois plus de dépenses et qui ne fait pas la réforme
en
des
fait,
retraites.
Vous ne l'auriez pas voté vous-même.
Je me suis exprimé publiquement pour dire que je l'aurais voté parce que dans la situation politique dans laquelle on est, c'est ça ou la dissolution. Donc, je comprends le travail très important, très courageux qu'a fait Sébastien Lecornu de compromis pour la stabilité de notre pays. Est-ce que c'est le budget rêvé pour la sécurité sociale? La réponse est non. Moi, je ne pense pas du tout qu'il faille augmenter les impôts et augmenter les dépenses et pas faire la réforme des retraites. Et je trouve qu'Édouard Philippe a eu raison d'alerter sur les comptes publics. Mais une fois qu'on a dit ça, je constate aussi la responsabilité d'Édouard Philippe et de tous ceux qui ont accompagné ce budget.
Qui, à la fin, n'ont pas appelé à voter contre.
Le budget n'a pas été retoqué, c'est une très bonne chose, le budget de la sécurité sociale. Maintenant, il faudra que dans la campagne présidentielle qui arrive, et notamment dans la prochaine majorité, dans désormais plus d'un an, on puisse en effet retrouver un schéma qui baisse les dépenses, qui baisse les impôts, qui encourage l'entreprise et qui explique aux Français qu'il faut travailler, non pas tous davantage, parce que beaucoup de Français travaillent beaucoup, mais un certain nombre ne travaillent pas assez. Et c'est ça qu'il faudra faire.
Vous donc, vous êtes engagé officiellement, au moins le temps que vous soyez ministre, à ne pas être, à proprement parler, dans l'arène politique des ambitions de 2027, ça vous coûte ?
Non, parce que je fais des choses utiles pour les Français, vous venez de le dire. Je pense que nous remettons droit à la maison justice, on met droit à les prisons. Je me bats pour ça, et je me bats pour donner à la France ce qu'elle veut, c'est-à-dire, je crois, une justice juste, digne, humaine, mais ferme. Et puis après, lorsque j'aurai rempli ma mission, comme je l'ai fait aux impôts avec l'impôt à la source, comme je l'ai fait à l'intérieur avec les Jeux Olympiques, eh ben nous verrons ce que je ferai pour notre pays, collectivement, soit à ma simple place d'élu local à Tourcoing.
Soit
pour contribuer au débat national. Et quand on est un homme politique, je pense qu'on aime son pays, on a envie qu'il aille mieux. Et j'aime mon pays et je souhaite qu'il aille mieux.
Merci Gérald Darmanin, beaucoup. Ministre de la Justice, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h52 sur RMC BFM TV. Dans un instant, la semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup qui revient à sa façon, évidemment, sur l'adoption du budget de la Sécu.
RMC. Une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, est venu nous voir et il est resté face à Canteloup.
Bonjour Sébastien Chenu. Il était donc mon invité ce matin. Éric Ciotti voulait vous dire un mot justement.
Oui, bonjour Madame de Malherbe. Et bonjour à mon excellente amie de toujours, déjà depuis, depuis au moins un an, hein, Sébastien Chenu. Oui, nous nous connaissons tellement bien que l'an prochain, je vous donne un scoop, Madame de Malherbe, avec Sébastien, nous ferons partie du même gouvernement. Voilà. Et enfin, je l'espère. D'ailleurs, Sébastien, tu as mon numéro ?
Toujours.
Hein ? Alors, je te le redonne. 06 23 47 12 85. 85, hein, pas 87, 85.
Monsieur Ciotti, le budget de la sécurité sociale est donc passé. Vous aviez voté contre. C'est une défaite pour vous, hein ?
C'est vrai que c'est une défaite. C'est une défaite, mais c'est aussi, notez-le, une victoire. Vous imaginez si nous avions gagné ? Sébastien Lecornu aurait quitté Matignon. Donc, il aurait nommé Jordan Premier ministre jusqu'à la présidentielle, un an les mains dans le cambouis, et il aurait grillé forcément son capital sympathie. Donc, vous imaginez le gâchis, alors qu'il aurait pu être président, notre Jordan, en plus, avec Marine inéligible derrière, non, nos deux cartouches auraient été grillées, donc, pour la présidentielle, donc ça aurait été la cata. Non, heureusement... Nous avons perdu.
Vous restez positif, hein, franchement. Hein.
Oui, c'est toujours positif. D'ailleurs, Marine et moi, si Marine et Jordan étaient grillés, après, dans l'organigramme, si je regarde bien, c'est Sébastien. Je reprends. Marine Miss France, en deux, c'est Jordan. Oui, c'est ça. C'est Sébastien, la troisième dauphine.
Ah,
donc,
oui.
Il est bien numéro 3. Non, mais on ne sait jamais. Oui, tout à fait. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je te donne quand même mon mail, hein, Sébastien. Donc c'est ericciotti@estrosibouffon.fr.
Voilà, merci.
Sur le portable, vous êtes trompé. Le portable de Ciotti, c'est 0608.
Merci Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC.